Et je vous invite sans plus tarder à ouvrir dans l'évangile de Luc, au chapitre 9. Évangile de Luc, chapitre 9, verset 57, et on va aller jusqu'au chapitre 10, verset 3. Je vous invite à prendre vos Bibles, puisque le texte est un peu long, donc il sera découpé. Donc si vous avez vos Bibles, vous pourrez mieux suivre. Luc, chapitre 9, verset 57. Jusqu'au chapitre 10, verset 3. Alors voilà, on est entre deux chapitres. Bon, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que les évangiles, voilà, ont été partitionnés par chapitres. Mais dans les originaux, il n'y a pas de chapitre, il n'y a pas de verset. Hein. Donc, du coup, voilà. Donc, rien de dramatique, mais voilà, ça permet d'expliquer. Donc, Luc, chapitre 9, verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. » Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où prendre du repos. Jésus dit à un autre, suis-moi. Et cet homme lui dit, Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. Jésus lui répondit, laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. À un autre encore lui dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. Jésus lui répondit, « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » Après cela, le Seigneur choisit encore 72 autres disciples et les envoya deux par deux pour le précéder dans toutes les villes et les localités où il devait se rendre. Il leur disait, « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Amen. » Alors quand on lit ce texte, vous pourrez le relire hein, là, on se dit que Jésus n'avait aucune notion de marketing. Le marketing et Jésus, ça fait deux. Alors le marketing, je ne sais pas si vous savez c'est quoi le marketing ? Le marketing, c'est l'analyse des besoins des consommateurs et la mise en œuvre de divers moyens. Il y a de la pub, il y a plein d'autres choses, pour influencer leur comportement, pour faire acheter un produit ou des services. Donc voilà, il y a la publicité, il y a différentes choses, hein, il n'y a pas que la pub, qui font partie du marketing, on vend un produit. Et si vous fabriquez un produit, vous voulez le vendre, il faut faire de la pub. Et ce que vous allez faire, vous allez tout mettre en œuvre du coup pour essayer de le vendre, en parler positivement, mais vous n'allez pas dire les aspects négatifs de votre produit, même si vous les connaissez. Vous direz pas oui, mais si vous achetez mon truc, bah là-dessus il y a des problèmes. Aucune marketing ne fait ça, ça n'existe pas. Je prends un exemple. Tu peux passer ? J'ai mis ici, alors c'est un chocolat, c'est un tiramisu au chocolat. Je vais essayer de faire un peu de marketing. Alors c'est pas mon domaine, hein, donc on va essayer. Marketing pour le tiramisu au chocolat. Ce tiramisu exquis et raffiné ravira vos papilles. Son chocolat vous fera fondre de plaisir et goûter au bonheur. Est-ce que vous avez envie de le manger ou pas ? Ah ça va, je suis pas si mauvais que ça. Je pourrais me reconvertir. C'est ça le marketing. Le marketing, là j'ai dit quelque chose de positif. Par contre, je ne dis pas que si vous en mangez beaucoup, vous risquez de grossir à vue d'œil et au niveau santé, ça risque d'être quand même problématique. Pourtant, c'est aussi une réalité. Mais dans le marketing, ça, je vous le dis pas. Ça, c'est votre souci. On vend les choses. Et du coup, on axe sur le côté positif, ou même des fois, on surjoue les choses, et on appuie sur les qualités. On tait les défauts. C'est ce que l'on fait. En tout cas, c'est ce que, dans notre monde, on fait. Dans ce passage, pourtant, qu'on vient de lire, Jésus fait tout le contraire. Il fait pas de marketing de la vie chrétienne. On pourrait se dire, il pourrait. C'est quoi le contexte de ce passage ? Au chapitre 10, là, à la fin du passage, on voit que Jésus est en train de recruter des disciples. Il est en phase de recrutement, c'est un peu le plein emploi du discipulat pour Jésus. Il va lui dire lui-même, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Du coup, il cherche des hommes, des femmes qui sont prêts à rentrer dans son service. Il va choisir 72 disciples, mais il va dire que c'est pas assez, 72 disciples qu'il va envoyer deux par deux. Pour proclamer la bonne nouvelle, le texte va le dire, pour le devancer dans les villages et les localités, pour préparer quelque part un peu son chemin. Mais ils sont pas nombreux. Du coup, Jésus, on pourrait se dire, il va faire de la pub pour recruter des hommes et des femmes qui veulent bien, finalement, rentrer dans la moisson, pour rentrer dans l'action dans le royaume de Dieu. Dans cette phase de recrutement intense, Pourtant, Jésus, on dirait qu'il fait tout pour décourager. Au lieu de dire « super », on fracasse. Au lieu de vendre la chose, il fait tout l'inverse. Ce qu'il fait, c'est qu'il pose des conditions, des obstacles un peu difficiles. Et Jésus, ici, voulait que ces personnes soient ses disciples. Mais pas sans réfléchir. On ne devient pas disciple de Christ sans évaluer ce que cela va nous coûter. Être disciple de Christ, c'est engageant. Et ça nous coûte. Ça nous coûte. Ça doit nous coûter quelque part. Parce qu'on change de vie, on change de maître. Et Jésus veut ici réaliser le juste prix à payer pour le suivre. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de solde. Le salut est gratuit. Sur tout le reste, il n'y a pas de solde. Il n'y a pas de rabais. Le prix est le prix. Il n'est pas négociable. Il n'y a pas des options. C'est on prend tout ou on ne prend rien. On donne tout au Seigneur. Si on donne à moitié, c'est qu'on ne donne rien. Dans tous les évangiles, pas que dans ce passage, Jésus va appuyer dans ce sens-là. Il veut des cœurs tout entiers. Ouvrir nos cœurs, mais ne pas laisser des pièces fermées. Tout lui ouvrir. C'est ce que Jésus annonce quelque part. Et j'ai intitulé du coup le titre de mon message, le prix, le juste prix pour être chrétien. C'est pas le juste prix l'émission, le juste prix pour être chrétien. Puisqu'il y a un juste prix. Quelque chose ici qui doit nous coûter. Ce matin, du coup, on va s'arrêter sur ces trois hommes et voir un peu, voilà, qu'est-ce qu'il en coûte d'être un disciple de Christ. Alors, première histoire, c'est le verset 57. Je peux passer l'aïna, je crois que je l'ai mis. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme vint dire à Jésus, « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. » Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où prendre du repos. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai lu ce texte, « Je te suivrai partout où tu iras », je me suis dit, c'est pas mal comme déclaration. Cet homme, il fait une belle déclaration. C'est pas mauvais quand même ce qu'il dit. Et moi, à la place de Jésus, j'aurais été flatté. J'aurais dit, « Bienvenue dans le groupe des disciples, toi, t'as... Bon, » C'est bien, tu commences bien. Bienvenue parmi nous. Allez, on va faire un bout de chemin ensemble. Mais Jésus va lui faire cette réponse. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit à lui où prendre du repos. Vous savez pourquoi il dit ça? Ouais, c'est vrai. Et je pense qu'en fait, cet homme n'avait pas conscience de ce qu'il disait. Il y avait une bonne volonté. Je te suivrai partout où tu iras. Cette phrase, on l'entend pas beaucoup de fois, hein. Je ne sais pas vous personnellement si vous l'avez déjà entendu. Bon, moi, il y a peut-être Eliette qui me l'a déjà dit quand on s'est marié. Non, c'est pas tout à fait vrai. Non. Elle m'a dit, j'irai partout où le Seigneur nous conduira. C'est pas la même chose, hein, d'ailleurs. Donc non, personne, moi, m'a jamais dit ça. Hein. Je ne sais pas vous. Hein. Quelqu'un qui vous dit, je suis partout où tu iras. En général, dans la réalité, on voit que c'est un peu différent. Et ici, Jésus, du coup, comme tu dis, du coup, là... Xavier, cet homme, il n'a pas conscience finalement de ce qu'il est en train de raconter, de la portée de ce qu'il dit. J'irai partout où tu iras sans savoir quelque part où Jésus va aller, c'est-à-dire ce qu'il va vivre, comment il va finir. Il aurait dû se renseigner avant de proclamer ce genre de phrase, on va à la pêche aux infos, pour savoir qui il est. Quand on parle de discipulat, du coup, mais qu'est-ce que Jésus veut pour moi? Et c'est pour ça que Jésus va faire cette réponse. Que lui n'a pas un endroit où prendre du repos. Suivre Jésus n'est pas de tout repos. C'est la première leçon. Ce n'est pas chose facile. Et suivre Jésus, ce n'est pas on suit Jésus et du coup tout ira bien dans le meilleur des mondes. La preuve. Jésus commence en répondant par une phrase assez... ça refroidit. Et lorsque Jésus d'ailleurs va décider de s'incarner, de descendre de son trône de gloire pour venir sur cette terre, il va tout laisser. Il va tout laisser, il va laisser sa majesté, sa gloire, pour venir dans un corps humain fragile et limité. Il n'a pas de maison. Il n'a pas de chez lui, Jésus. Durant les 3 ans de ministère, effectivement, il n'a pas un endroit où se reposer. Alors il y aura des personnes, notamment parmi ses disciples, qui vont essayer de prendre soin de lui, l'héberger, le nourrir. Mais Jésus, il n'a pas de chez lui. Il n'a pas de maison. Alors qu'on parle de Dieu, quand même, hein. du Créateur de toutes choses. Lui, le roi de gloire, il n'avait pas un endroit qu'il pouvait appeler ma maison. Ici, je suis chez moi. D'ailleurs, dans la suite, on va voir, il y a des personnes, voilà, qui, comme je dis, qui vont prendre soin de lui, mais en plus, qui vont lui prêter un âne, pour faire son entrée à Jérusalem. Même l'âne ne lui appartient pas, il l'emprunte. Il va mourir à la croix, même le tombeau où il va être enterré n'est pas le sien. Il va être prêté. Alors vous allez me dire, bon, il l'a utilisé que 3 jours, bon, du coup, il ne faut pas trop demander, bon, d'accord, mais quand même, Jésus n'avait rien. Et quand il s'est incarné ici-bas, il n'avait rien, si ce n'est sa propre vie. Propre vie qu'il va, encore une fois, en plus, offrir à la croix. La seule chose qu'il avait, c'est sa vie, et même ça, il va l'offrir à la croix, et c'est pour ça qu'il demande aux disciples, ici il s'agit de ne pas être attaché à notre sécurité matérielle. C'est la première leçon de cette histoire. Le chrétien, il doit suivre le Christ. Jésus va dire que celui qui m'aime le suive, et que du coup, bah, il se charge de sa propre croix. C'est Jésus qui va dire ça, hein. Il va pas dire, ok, ça va être cool, on va bien faire la fête, je suis Dieu, je vais te donner tout ce que tu veux. Ça, c'est une théologie, d'ailleurs, qui est un peu dans le monde évangélique, des fois, qu'on entend. Mais c'est pas vrai. Que celui qui me suive prend sa croix et me suive. Jésus nous demande ce matin de suivre le même chemin que lui a vécu. De marcher sur ses traces, sur un chemin sans gloire, sans sécurité, sans confort. La seule sécurité que le chrétien a, c'est la fidélité à Dieu. Dieu est fidèle. C'est sa seule sécurité, et c'est là pour nous ce matin notre seule sécurité. La fidélité de Dieu à notre égard. Cela permet à nous chrétiens d'être plus en sécurité d'ailleurs que le plus riche des hommes d'ici-bas. Parce qu'avec Dieu, on peut tout. Mais pour vivre ça, il faut accepter de lâcher. Dieu ne fera rien avec quelqu'un qui s'appuie sur ce qu'il a. Il y a une parabole, alors je ne vais pas développer, hein, ce n'est pas mon sujet ce matin, mais il y a un homme qui a bâti sa vie. Et Dieu va l'appeler, hein, va le rappeler à lui. Il va lui dire, tout ce que tu as bâti, ça a servi à quoi? À rien. Si tu perds ton âme, tout cela ne sert à rien. Dans cette histoire, Jésus demande à ses disciples de renoncer à la sécurité matérielle. Alors bien sûr, il ne s'agit pas du coup de vivre à la rue, c'est pas ce que je dis ce matin. Il s'agit dans la relation qu'on a à nos biens, à notre argent, à tout ce qu'on possède. Quel est le lien qu'on a? Est-ce qu'on bâtit notre vie sur ça? Ou est-ce que réellement ce que l'on chante, ce que l'on proclame, c'est le Seigneur de notre sécurité? Et que si on perd tout, et bien c'est pas grave. Parce que Dieu est fidèle. Et que lui seul me suffit. C'est lui qui est à nos côtés. C'est dur, hein? C'est challengeant, hein? Mais c'est un des premiers critères que Jésus... Bon, alors sur les trois histoires, c'est le plus facile, hein? On commence par le plus facile, hein? Plus on avance, plus c'est encore plus dur. Mais Jésus ici pose, voilà, il va pas vendre la chose. Faire semblant. Il pose les conditions du vrai disciple. Celui qui aime le Seigneur, qui a rencontré l'amour de Dieu, il est prêt à tout lâcher. Dans les évangiles, il y a plein d'hommes qui l'ont fait, Zachée. Des hommes qui ne vont pas dire « on attend ». Ils lâchent tout, ils suivent le maître. Ces hommes-là, il n'y en a aucun qui va regretter. Tous vont vivre une vie remplie dans le royaume de Dieu. Ils vont être actifs, acteurs du royaume de Dieu. Pour nous, il s'agit ce matin du coup de ne pas laisser place à l'inquiétude. Souvent, quand on place notre confiance dans les biens matériels, c'est qu'on est inquiet. On s'inquiète du lendemain, du coup on place une confiance un peu disproportionnée dans nos biens. Ici, il s'agit de nous rappeler que le Seigneur est notre sécurité. Il est celui qui est à nos côtés, celui qui a dit « Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne recueillent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux ?» J'ai des oiseaux là, dans ma cour actuellement. Alors il y a un petit buisson, ils ont fait des nids. Ah, ils sont bien, hein. J'ai l'impression qu'en tout cas ils ont à manger. Hein. Donc, Et effectivement, Dieu prend soin de nous. On vaut plus que les oiseaux du ciel. Il s'agit pour nous de faire confiance en notre Père. Ça va ? Deuxième histoire. Jésus dit à un autre homme, « Suis-moi. » Mais cet homme lui dit, « Seigneur, permets que j'aille d'abord enterrer mon père. » Jésus lui répondit, « Laisse aux morts le soin d'enterrer leurs morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. » Alors dans cette deuxième histoire, il y a quelque chose d'un peu différent dans ce dialogue que Jésus a avec cet homme. D'ailleurs, pour préciser, c'est une histoire qui a choqué les hommes depuis plus de 2000 ans, cette histoire. Parce qu'il est question d'un deuil, et la réponse de Jésus, il dit pas « mes condoléances, je compatis, prends soin de toi, puis tu reviens vers moi. » Jésus, il dit « tu laisses les morts enterrer les morts. » Vous imaginez la réponse ? Un homme vient de perdre son père. Hein. Est-ce que sa demande est... Est-ce qu'elle vous paraît recevable, sa demande ? Oui, elle paraît recevable, comme elle est légitime. Il vient de perdre son père, il demande de l'enterrer. Il n'y a rien de choquant dans ça. Et pourtant, ici, la réponse de Jésus, elle est encore une fois radicale. Au lieu de dire « je te présente mes condoléances, prends du temps et reviens vers moi », non. « Laisse aux morts le soin d'enterrer les morts. Quant à toi, va proclamer le règne de Dieu. » Alors, je ne sais pas si cet homme... On n'a pas la réponse. Je ne sais pas s'il a pleuré, s'il est parti, Que veut dire Jésus ? Déjà, une des différences qu'il y a ici, et c'est peut-être pour ça que cette histoire elle est encore un peu plus dure, sur la première histoire, c'est un homme qui va venir vers Jésus. Sur cette deuxième histoire, c'est Jésus qui appelle un homme. Et cet homme, du coup, il n'a rien demandé. Et pourtant, Jésus lui donne une réponse radicale. Alors, que comprendre ? Que veut dire Jésus dans cette histoire ? Si on s'engage à suivre le Seigneur, alors le règne de Dieu doit devenir prioritaire dans nos vies. Prioritaire sur quoi que ce soit d'autre, c'est la première histoire, mais prioritaire aussi sur qui que ce soit d'autre. Et là, c'est plus dur. Là, c'est beaucoup plus dur, et là, on se dit, ah ouais, quand même. Prioritaire, du coup, sur ses amis, bon, là, on peut se dire, c'est jouable. Lui, je l'aime moins, allez, je peux essayer de trouver un défaut, et puis je peux essayer de prendre... Prioritaire sur ses collègues de travail, prioritaire sur son conjoint, prioritaire sur ses parents, prioritaire sur ses enfants. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. C'est ce que Jésus va dire un peu plus loin. Alors Jésus ne demande pas, c'est bien de le préciser, hein, Jésus ne demande pas de manquer de respect à nos proches ou d'être des gens irresponsables, de ne pas prendre soin des siens. D'ailleurs, il y a un passage dans le Nouveau Testament, Paul va en parler, que ceux qui prennent pas soin des siens, ils sont pires que des incroyants. Il s'agit pas de cela, mais il s'agit de la priorité. Quelle est la place que l'on met à ceux qui nous entourent, nos enfants, nos conjoints, nos collègues? Est-ce que c'est le Seigneur vraiment qui est au centre, ou c'est la vie de famille que l'on a, nos parents, nos enfants? Que l'on aime. Jésus ne dit pas qu'il ne faut pas les aimer. Mais qui est prioritaire? Si ce n'est pas le Seigneur, on perd quelque chose de la vie du disciple. On n'a pas connu pleinement le Seigneur. On n'est pas prêt à tout lâcher. On n'est pas prêt, du coup, à tout vivre. On veut vivre des choses, mais avant, il faut mettre les conditions. Le règne de Dieu doit devenir la priorité de notre vie. La priorité indispensable, non négociable, sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit. Combien de chrétiens font aujourd'hui passer tellement de choses avant le règne de Dieu ? Ils sont bénéfices du salut, du Seigneur, mais leurs priorités n'ont jamais changé. On peut trouver aux premières places de leurs préoccupations le confort, le bien-être, l'épanouissement personnel, leur désir, en gros le moi. Moi, moi, moi. Et du coup, la relation qu'ils ont au Seigneur, c'est pas une relation normale. C'est une relation, j'appelle ça moi, distributeur automatique. Je prends le Seigneur quand j'en ai besoin. Quand j'en ai pas besoin, je fais ma vie. Le Seigneur est bon, et dans sa grâce, des fois il fait. Mais ça ne dure jamais longtemps, ça. Ce que le Seigneur demande, c'est que nous soyons à sa disposition. Il veut des cœurs entiers. Ça va ? Bon, on est dans le même bateau, hein. Mais c'est important pour nous en tant que chrétiens. On ne peut pas commencer à mélanger des choses et bâtir notre vie sur nous-mêmes et oublier que c'est nous qui sommes à la disposition du Maître. Le règne de Dieu vient avant. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre monde, il y a aussi beaucoup d'influences hein, qui viennent un peu encourager l'individualisme, y compris dans le côté religieux. Hein. Dans le monde évangélique, il y a vraiment de tout. Et il y a notamment ce qu'on appelle la théologie de la prospérité, qui est focalisée sur le moi, et qui vient caresser les oreilles de certaines personnes, certains même chrétiens, et qui trouvent ça bien, d'ailleurs. Je donne des exemples. Exemple que, bien sûr, hein, ça ne vise personne, hein, mais... Entre dans ta destinée. Réalise ton potentiel. Atteins tes objectifs. Accomplis tes rêves en 7 étapes. Allez, peu importe. Il y en a plein des trucs comme ça sur Internet. Hein. Est-ce que vous voyez Jésus dire cela ? Non. Jésus, son propos, il n'est pas focalisé sur le moi. Il est focalisé sur le règne de Dieu. Et les mêmes slogans là que je viens de citer, égocentriques, on trouve les mêmes slogans dans le monde. La seule différence avec nous, c'est qu'on a mis un peu de vernis spirituel. Mais c'est la même chose. On est dans de l'épanouissement personnel. Et du coup, avec une théologie de la prospérité, où quelque part, voilà, le chrétien, il doit être riche, il ne doit pas être malade, il doit... Et du coup, des gens qui ont mal lu leur Bible, hein, puisque les 12 apôtres, bon, ils n'ont pas bien fini, hein. Est-ce que du coup, ils étaient dans l'erreur ? Non, les 12 apôtres ont vécu ce que Jésus vient de dire. Les conditions du discipulat, ils les ont bien saisies. Et ils ont donné toute leur vie au Seigneur. C'est avec ces slogans que l'ennemi vient nous détourner de notre mission, des priorités du royaume de Dieu. Ces slogans sont totalement incompatibles avec l'appel que Jésus nous lance pour réviser nos priorités. Pour que nous mettions les demandes du règne de Dieu avant nos désirs. Pas juste en parole, dans la pratique. C'est dans la pratique que Dieu nous attend. Avant nos objectifs, avant nos ambitions, avant nos rêves, et je dirais même, avant nos besoins. C'est cela le vrai disciple. Il donne tout. En confiance, parce qu'il connaît son Dieu. Et il sait que le Seigneur ne le laissera pas. Faites donc du règne de Dieu votre préoccupation première. Et ces choses vous seront données en plus. On aime bien la deuxième partie de ce passage. On s'attarde moins sur la première. Faites du royaume de Dieu votre préoccupation, pas deuxième, pas troisième, première. Et le Seigneur prendra soin de vous. Il donnera ce que votre cœur désire, ce que vos cœurs désirent. Alors, c'est quoi la mission du royaume de Dieu ? Là, je parle de mission du royaume de Dieu, du règne de Dieu. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous avez une idée ? Connaître Dieu, sa volonté, ouais. Alors, de manière plus simple. Alors, la mission du royaume de Dieu, ça fait partie des commandements du Seigneur, c'est se mettre au service des autres. Aimer nos prochains, tous ceux qui nous entourent. Aimer notre prochain en proclamant la bonne nouvelle du salut. Cette bonne nouvelle qui nous a saisis un jour. On ne peut pas la taire, parce qu'on aime nos prochains, il faut proclamer ce que Dieu est capable de faire. En parole, mais aussi en action. Par notre vie. La mission du royaume de Dieu, elle n'est pas tournée vers nous-mêmes. Elle est tournée vers les autres. Et tous les disciples que l'on voit dans les évangiles, les apôtres, il n'y a rien qui est tourné vers eux. Tout est tourné vers les autres. Et Dieu va les utiliser. Dieu va les utiliser. C'est ainsi que nous serons donnés, en plus de tout ce que nous avons besoin, Dieu est un Père généreux pour nous. Et si on s'occupe de son royaume, dans notre vie, il nous bénira. Dieu n'est pas un Dieu avare en bénédiction. Il est un Dieu qui bénit. Il est un Dieu qui bénit. La question, c'est est-ce qu'on s'approche de Dieu juste pour être béni ou c'est pour chercher le royaume de Dieu? Est-ce que vous voyez la différence? Une différence qui est importante. Mais une différence quand même. Alors, dernière condition, c'est la troisième histoire. Un autre encore lui dit « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord de faire mes adieux à ma famille. » Jésus lui répondit « Celui qui regarde derrière lui au moment où il se met à labourer avec sa charrue n'est pas prêt pour le règne de Dieu. » Une requête encore qui semble raisonnable de cet homme. Et Jésus ici lui dit de ne pas regarder en arrière. C'est la dernière leçon. Il dit à cet homme, en déclarant vouloir me suivre, tu as pris la charrue déjà. Pourquoi tu veux maintenant la poser? Pourquoi maintenant tu veux regarder en arrière? Pourquoi tu veux t'arrêter? Si on veut aller de l'avant, dans notre marche avec le Seigneur, on ne peut pas regarder en arrière. On doit avoir les yeux, ce que Paul va dire, fixés sur le Christ. Quand les apôtres Pierre, Jacques et Jean ont décidé de suivre Jésus, ils ont tout laissé tomber. Tout. Pourtant, leur business de pêcheurs venait de reprendre. Je vous rappelle un peu l'histoire. Ils vont pêcher, ils vont faire une pêche un peu miraculeuse d'ailleurs, grâce à Jésus. Et leurs barques et leurs filets vont être remplis de poissons. Ils vont tirer cela difficilement vers la berge. Et ils auraient pu dire à Jésus, « Bon, attends, on va vendre le poisson. Là, il y a un business qui reprend. On te suit dans 2 heures. Dans 2 heures, on te suit. » Le texte dit, il lâche tout. Il lâche tout sur le bord de la berge. Alors, il y a un passant qui a dû se régaler, je pense, hein, mais eux, ils lâchent tout. Et ils suivent le Christ. Ils ne regardent pas à leur vie passée. De pêcheurs de poissons, Dieu va les faire devenir pêcheurs d'hommes. Ils vont aller au salut des âmes. Et il y a plusieurs cas comme ça dans la Bible de personnes qui vont tout lâcher parce qu'ils ont été saisis par l'amour de Dieu. Et puis il y a aussi des hommes que l'on trouve dans la parole qui ont regardé en arrière. Il y a la femme de Lot. Elle a regardé en arrière. Il y a Judas Iscariote. Il a regardé en arrière. Son problème ici, c'est l'avarice. Il y a Démas dans le Nouveau Testament et tant d'autres. Ces personnes-là, est-ce qu'on se souvient d'eux pour ce qu'ils ont accompli pour le royaume de Dieu? Non. Comme le dit Jésus, ils n'étaient pas prêts pour le royaume de Dieu. Ils n'avaient pas saisi complètement l'engagement que Dieu attendait d'eux. Ceux qui s'engagent à suivre Jésus se sont engagés à ne pas se laisser détourner de leur mission. Et ce matin, si vous vous êtes engagé avec le Seigneur, il s'agit de ne pas se laisser détourner de votre mission, qui est de proclamer la bonne nouvelle en parole et en acte, d'aimer tous ceux qui vous entourent, d'être une lumière dans ce monde, de ne pas se laisser distraire par la sécurité matérielle, par les biens, par des personnes, ou par les années en tant que vie de chrétien. Et du coup, on lâche la charrue et on regarde en arrière. Celui qui regarde en arrière, alors qu'il prend la charrue, ses sillons ne seront pas droits. Ou il faut vraiment qu'il soit doué, mais ils ne seront pas droits. Il regarde en arrière, il ne regarde pas devant, il ne regarde pas là où il va. Ce troisième dialogue, cette dernière histoire, c'est un peu un résumé des deux premières. Le premier dialogue, on vient de le dire, c'est la sécurité matérielle, l'attachement au confort. Le deuxième, c'est de ne pas se laisser distraire par des personnes qui nous entourent. D'avoir le règne de Dieu en priorité première. Et ce troisième dialogue, Jésus vient un peu nous poser face à un choix. Prends une décision. Il est temps, là, aujourd'hui, maintenant, de prendre une décision et de te tenir à cela. Si tu as décidé de prendre ta charrue pour avancer dans le royaume de Dieu, bah, du coup, de ne pas regarder en arrière. Sinon, ton sillon ne sera pas droit, du coup, ton service dans l'église ne sera pas bon, ton engagement même avec ceux qui t'entourent ne sera pas bon. Tu pourras dire « Dieu t'aime et j'aime les autres », mais les gens vont regarder aussi. Finalement, lui, il dit qu'il aime Dieu, mais il aime plus sa maison, il aime plus sa voiture, il aime plus ses enfants, même si c'est bien d'aimer ses enfants et sa famille. Hein. Mais du coup, est-ce que nos enfants, nos familles, nos parents ne sont pas devenus le Dieu qui a remplacé Dieu. Encore une fois, attention, hein, je dis pas qu'il faut pas aimer. Non, c'est les mettre à leur juste place. Le Seigneur dit ce matin, reste concentré sur ta mission. Reste concentré sur ce à quoi je t'ai appelé, ne regarde pas en arrière. Ça va? Alors, préparant ce message, j'ai hésité, mais allez, je vais quand même le partager. Ça m'a fait un peu penser. Il y a un moment dans ma vie, j'ai dû faire un choix. Alors voilà, j'étais chrétien, j'aimais le Seigneur, il y avait déjà un appel du Seigneur à vouloir le servir. Mais quand c'est théorie, quand ça reste que de la théorie, on dit oui et amen. Hein. Quand ça rentre dans la pratique, moi j'ai moins dit amen. Hein. Le deuxième histoire. Attends. Parce qu'il y a un moment, moi, il a fallu que je lâche mon travail. Il y avait un bon salaire, il y avait un bon poste. Hein. En plus, j'étais jeune, je venais de finir mes études. Et du coup, je me suis dit au Seigneur, attends, c'est trop tôt. Est-ce que à 50 ans, peut-être, je commence à réfléchir. Pourtant, le désir du service du Seigneur, il était là. Hein. Mais j'étais partagé. J'étais bien partagé. Et il y a un moment, le Seigneur, il m'a pas forcé la main. Alors moi, j'ai fait une prière un peu malhonnête. J'ai dit au Seigneur, « Seigneur, ouvre les portes, ferme-les, moi je peux pas faire. » Bon, le Seigneur a eu beaucoup d'humour avec moi, du coup, en fait, il a ouvert toutes les portes. Il a dit, « Maintenant, faut choisir. » Alors, je vous passe les détails, mais du coup, il y a un moment, j'ai dû faire un choix. Il y avait un limite de temps. Et j'ai dû faire un choix. J'aurais pu choisir de continuer, mais je savais qu'au fond de moi, j'aurais un regret éternel d'être passé à côté. Du coup, j'ai fait le choix de démissionner. Mon patron, il a rien compris. Hein. Il a cru que j'avais déception sentimentale. Bref, il y a même... Ça, c'était dur quand même. Je l'ai mal pris, mais bon, j'ai rien dit. Mais deux assistantes sociales qu'il a appelées pour essayer de comprendre. Voilà, parle, exprime-toi, qu'est-ce qui va pas. Et au fond de moi, bon, à ce moment-là, j'étais bien. Du coup, j'ai dit non, c'est... Bon, ils comprenaient pas. J'ai arrêté pour devenir pasteur. Et bon. Et ça, c'est... Et en plus, tu dois payer ta faculté de théologie. Mais c'est n'importe quoi. T'es tombé sur la tête, toi. Mais quand j'ai fait ce choix, je savais pas où est-ce que j'allais. Il y avait plus de revenus. J'avais pas d'avenir. Hein. J'avais juste ma confiance dans le Seigneur en disant, Seigneur, j'ai fait le choix. Maintenant, c'est toi qui guides. Parce que j'ai plus rien. À ce moment-là, mes parents, qui étaient chrétiens, hein, mon père, je pense que voilà, c'était trop rapide, mon père m'a dit, tu fais ce choix-là, tu l'assumes tout seul. Alors voilà, il y avait une fierté de papa, il comprenait pas pourquoi son fils... Ça a été après, mais pour moi, ça m'a aidé. Je me suis dit, je suis seul face à mon choix, il n'y a pas de parachute derrière. Mon seul parachute, c'est le Seigneur. Dans l'année qui a suivi, il a fallu se former, formation théologique. Elle est obligatoire, il faut le faire. Enfin, la faculté de théologie, c'est 5000 euros l'année. Sans compter, après, ça c'est juste les cours, hein. Sans compter, après il faut manger, il faut vivre. Hein. Alors, j'aurais pu tout payer. Alors sur 3 ans, ça fait 15 000 euros. Vu que j'avais travaillé, je pouvais tout payer. Mais j'ai dit au Seigneur, non. Non, là je fais pas pour moi, là. Là je fais pour toi. Donc moi je peux payer le tiers, une année. Les deux tiers, Seigneur, faut que tu fasses. À la limite, la moitié. Je peux faire la moitié, mais j'ai besoin de te voir à l'œuvre. J'ai lâché des choses, Seigneur, là, il faut que tu fasses. Et vous savez ce qui s'est passé? Durant ces 3 années, finalement, j'ai déboursé 0 euro. Il n'y avait pas de financement de l'église locale, hein. J'avais refusé, parce que voilà, je passe les détails, l'église, il y avait une situation compliquée à l'époque, donc je voulais pas ramener plus d'histoire. Il n'y avait pas de soutien du mouvement, il n'y avait rien. Ça a été des chrétiens, mais des chrétiens de tout horizon. Il y a eu des prêtres catholiques, des bons prêtres, hein. Pas des mauvais prêtres avec Marie et compagnie, hein. des bons. Des bons prêtres, il y a eu de tous les milieux évangéliques. Des personnes, jamais j'aurais cru que j'aurais pu parler avec eux. Des personnes que Dieu avait mis sur mon chemin. Dieu m'avait pas fait un chèque à blanc. Hein. C'était au jour le jour. Je me rappelle d'un moment, j'étais à la fac, j'étais en internat. À la fin du mois, il n'y avait plus rien. Donc, et je me suis dit, bon, bah là, donc j'avais pris en plus donc je faisais du babysitting, hein, quand même à côté, mais c'était pas suffisant, et donc j'ai dit, bon, bah, je vais quitter l'internat, je vais voir comment je fais, mais je sais pas où je vais, mais là, je peux pas payer. Je vais au secrétariat, et j'ouvre la porte, et le directeur me dit, ah, ben David, faut que je te voie. Et il me dit qu'il y avait un don anonyme et qui correspondait exactement au montant qu'il fallait pour les 6 mois qui suivaient. Juste les 6 mois. Et pendant 3 ans, j'ai vécu... C'est une de mes meilleures périodes de ma vie. Alors, je dis pas que maintenant, c'est pas bien. Hein, mais parce qu'à ce moment-là, j'ai tout lâché. Tout. Et le Seigneur a répondu. J'ai fait les calculs à la fin. Le Seigneur n'a pas juste répondu aux 15 000 euros. Il a payé aussi. En tout, j'ai eu 21 000 euros. Ni plus, ni moins. Tout s'est arrêté. Et pourtant, les frères et sœurs tous ne savaient pas que j'avais arrêté au bout de 3 ans. J'avais terminé. Tout s'est arrêté au moment où il fallait. Il m'est resté en poche. Alors, il y avait un superflu, mais de 17 euros. Voilà, petit bonus du Seigneur, 17 euros. On va pas loin avec 17 euros, mais 17 euros. Et ça, dans mon cœur, ça m'a permis, voilà, je l'ai gardé, je l'ai serré dans mon cœur. Mais pour vivre ça, il faut tout lâcher. On ne peut pas dire vouloir vivre des choses fortes avec le Seigneur, voir le Saint-Esprit parler, agir, utiliser des personnes, si derrière nous, on n'est pas entier devant lui. Mon histoire, je ne suis pas le seul, et pour même peut-être vous avoir des histoires pareilles, il y en a plein de chrétiens, d'hommes et de femmes qui ont tout lâché, dans la parole même. Des hommes et des femmes qui lâchent tout devant le Seigneur et le Seigneur qui prend soin des siens. Alors ces 3 années n'ont pas été non plus de tout repos. Là, je raconte ça avec le recul maintenant. Et vraiment, j'ai dû pleurer, j'ai dû mettre ma foi en action. Parce que c'est fatigant de pas savoir au lendemain comment on se projette pas en fait. Mais la seule projection que j'avais, c'était « forme-toi bien ». Et ça, je pouvais le faire. À chaque jour, suffit ta peine. Là, c'était plus que des paroles, c'était la réalité. Ce matin, je vous encourage à être un vrai disciple du Seigneur, à tout lui donner. Pour conclure, ces 3 dialogues, on peut dire qu'ils sont bien durs sur ces 3 histoires. Mais Jésus est honnête. Il pose des conditions qui sont difficiles à entendre, difficiles à accepter, difficiles à accomplir. Mais Dieu nous demande ici une consécration totale. J'ai invité le groupe de louanges à s'approcher. Cela doit nous coûter. Et la vie avec le Seigneur, ça nous coûte. Ce que Jésus nous offre, en retour, est fabuleux. Dieu nous demande tout, mais en retour, nous avons beaucoup plus. Par contre, pour vivre ça, Dieu nous demande un grand pas de foi. Le pas de foi, il ne vient pas de nous-mêmes. Les hommes de la Bible, Jacques, Jean, Pierre, Zachée, ces gens-là, ils n'ont pas pris le temps. Il y a une chose qui a montré pourquoi ils ont été capables de vivre tout cela. Parce qu'ils ont rencontré l'amour de Dieu. Ils ont vécu ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit qui est capable de transformer un homme, une femme. Celui-là, quand il sait que Dieu l'aime, il est prêt à tout lâcher. Tout. Parce qu'il sait qu'en Dieu, il a tout. Et il a plus que tout. Dans ces 3 histoires, on n'a pas la réponse des 3 hommes. On n'a pas leur réaction. On ne sait pas s'ils ont dit oui au Seigneur, j'accepte de tout lâcher, ou est-ce qu'ils ont dit non, c'est trop dur. On ne sait pas. Mais c'est pas grave. Le plus important ce matin, c'est notre réponse à nous. À ce que Jésus dit sur ces 3 histoires, qu'est-ce que nous répondons? Est-ce qu'on dit attends? Est-ce qu'on dit, attends, je termine ça? Est-ce que les priorités ici sont pas bonnes? Dans ce cas-là, ce matin, il s'agit pour nous chrétiens qui un jour avons accepté de suivre le Maître. Est-ce que je me suis endormi? Est-ce que comme celui qui a la charrue, il l'a posée et on regarde en arrière? Est-ce que je suis bien actif dans la mission du règne de Dieu? Du royaume de Dieu? Et ce message, il est aussi pour vous qui n'avez pas fait ce choix de suivre le Seigneur. Il s'agit de tout lâcher. Le Seigneur, il n'a pas fait du marketing dans le discipulat, il vend une réalité. Mais cette réalité, elle est quand même positive puisqu'avec Dieu, on vit une vie pleine de richesses et de bonheur auprès de celui qui nous aime. Celui qui est bienveillant, celui qui a un cœur généreux. Amen.